Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous allons continuer ce soir donc la lecture du roman de Jean Giono, Regain. Voilà, ça va commencer. Il fera tirer droit jusque là-bas au buisson qu'il a laissé exprès comme marque, et ça sera le sillon maître. Tous les autres s'allongeront contre celui-là. Et quand depuis ici jusque là-bas au jeune cèdre, ça en sera tout couvert, quand ça sera comme une toiture de tuiles, alors ça ira. En avant. Il a retrouvé son instinct de tueur de bêtes pour enfoncer brusquement le coutre aigu dans la terre. Elle a gémi. Elle a cédé. L'acier a déchiré un bon morceau qui versait noir et gras. Et d'un coup, la terre s'est reprise. Elle s'est débattue. Elle a comme essayé de mordre, de se défendre. Tout l'attelage a été secoué depuis la mâchoire du cheval jusqu'aux épaules de Panturle. Il a tout de suite regardé le soc. Il est toujours entier, et c'est pourtant contre une bonne pierre qu'on est venu. « Tu y passeras quand même, » dit Panturle, les dents serrées. Maintenant, le grand couteau, qui ressemble à un devant de barque, navigue dans la terre calmée. « Allez, le nègre, tire un peu, feignant de bonsoir !» Ça va tout allègre et tout clair. Et voilà le soleil qui a sauté la colline et qui monte. Et voilà Arsule qui a sauté le ruisseau et qui monte. La diligence de Michel s'arrête maintenant sous le Devers de Vachère à 10 heures. Il a trouvé un moyen, on ne sait pas lequel, mais le fait est que c'est 10 heures. On va attendre le père Valigrane. Michel se met à jouer de la trompe. On est sous l'ombre que donne la haute église mangée par le lierre. Voilà Valigrane qui descend la route comme un cadet, le voilà même dans le sentier qui raccourcit les détours. Il se dépêche, s'il se dépêche tant, il va tomber. Hé, ne vous pressez pas, on a le temps, il n'y a pas le feu. Ben, je ne voulais pas te faire attendre. Et alors, on n'est pas bien ici à l'ombre ? Valigrane s'essuie la peau de la tête avec un grand mouchoir tout propre. « Vous entrez dedans ou vous venez ici ?» demande Michel en montrant la place à côté de lui sur le siège. « Je vais à côté de toi, au bel air. Là-dedans, tout enfermé, moi, ça ne me dit guère. » Les chevaux ont commencé la lente montée en serpant, en remuant toutes les clochettes du collier. Il fait chaud, on est en août. Michel, qui sait pourquoi Valigrane va à Bannon, dit « Il y aura du monde. » « Oui, c'est ce que je disais à la femme, ça tombe juste le jour de la foire. » Ça les dérange, mais avec les chaleurs, on pouvait pas le garder un jour de plus. C'était pas possible, ça commençait déjà à sentir. Moi, je leur ai dit « Vous n'avez même pas besoin de fermer. Ils ont une sortie sur le derrière de la maison. » C'est pas la peine de fermer le café juste le jour où ça travaille. Le corbillard vient derrière la maison, on charge et on part. Devant, on voit rien. C'est pas vrai, ça ? Oh ! De fait que... Ben, c'est embêtant, juste ce jour-là où ils peuvent gagner une pièce de 100 à 150 francs. C'est pas si souvent de fermer et d'envoyer les clients chez les autres. Il y en a bien assez du malheur, déjà. Ben, c'est ce que j'ai dit. Bah, c'est ce qu'il dirait, s'il pouvait parler encore. Allez, sans tambour ni trompette. Bah, c'était quand même un brave homme, l'oncle Joseph. On arrive à un tournant d'où on voit tout le pays d'en bas. Ça n'est pas doré de blé comme d'habitude, mais seulement jaune sale, et à travers le jaune, on voit la terre. Ah, cette année, par exemple. Ça fait ça aussi chez vous ?
Oui.
Nous, d'habitude, on avait 50 charges. On en aura peut-être 5 et du mauvais, et avec 10 fois plus de travail, et plus pénible que d'habitude. Alors, tu vois...
Ouais, c'est pareil partout.
Tu peux dire... À Rayanne, à Forcaldier, à Manosque, on a voulu faire de ce blé d'Inde. C'était nouveau encore, ça, et tu vois maintenant. Et puis, il y a eu le gros orage.
Ah oui, bien sûr.
Et il en a tenu de l'étendue, cet orage.
Et il en a fait du mal.
Oui, il en a fait du mal, reprend le père Valigrane, qui a bien regardé dedans de lui des souvenirs de champs de blé. Et s'il en a tant fait, c'est à cause de la mode.
Ça, quand ça se mêle des gens, ça fait pas mal d'imbéciles. Mais quand ça se mêle des plantes et des choses de la plante, je vais te dire. Moi, je suis allé dans un pays, je te dirai pas où. Tu saurais de qui je veux parler. Il y avait un de ceux qui s'y entendent sur les choses de la terre, ou du moins ils le disent, un professeur quoi, et payé par le gouvernement. Il avait loué une petite ferme. Elle était propre, ordonnée, bien en ligne, régulière, de belles verdures grasses. De la vigne, des mûriers, un petit pré, des cerisiers, tu vois. Bon, mon professeur, il s'y met.
Ah, pour ça, il s'y met. Il tombait la veste, il tombait le gilet, il retroussait les manches et en avant.
Au bout d'un an, ça a été un désert.
Un désert, je te dis.
Il leur avait pris un dégoût à tous ces arbres, ça faisait peine. Plus de cerises. Plus de vignes, plus de prés. Tout ça, ça vomissait sa vie. Et un peu de ci, et une pincée de ça, et cette branche doit aller de là. Il mettait les raisins dans des petits sacs de papier. Oui, c'est comme ça.
Maintenant, si tu voulais la reprendre, sa ferme, on te la donnerait que tu la voudrais pas. C'est tout mort.
Tu le vois, cet homme, le médecin des racines avec son gros livre à la main?
Ça s'apprend pas dans les livres, ça.
Ah, vous en avez toujours des nouvelles, vous.
Non, voilà ce que je veux dire. Tu as parlé de l'orage.
Si on avait fait du blé de notre race, du blé habitué à la fantaisie de notre terre et de notre saison, il aurait peut-être résisté.
Tu sais, l'orage couche le blé.
Bon, une fois, faut pas croire que la plante, ça résonne pas. Ça se dit, bon, on va se renforcer.
Et petit à petit, ça se durcit la tige et ça tient debout à la fin, malgré les orages. Ça s'est mis au pas.
Mais si tu vas chercher des choses de l'autre côté de la terre, mais si tu écoutes ces beaux messieurs avec les livres, mettez de ci, mettez de ça, ah, ne faites pas ça.
En galère. Voilà ce qui t'arrive.
Ça, Valigrane, je suis de ton avis.
Remarque, qu'on s'y laisse tous prendre. Moi, l'enfant a voulu, le gendre a voulu. Vous voulez de ce blé, mettons de ce blé. Et puis maintenant, nous faisons Jésus devant le grenier. Et puis maintenant, nous voyons, et puis maintenant, ah, le Mistral a de quoi jouer du tambour avec toutes ses granges vides. Et voilà, si au moins ça servait de leçon.
Déjà la route est plus doucement penchée sur la colline. Déjà on voit le bord du bois là-haut et l'herbe sèche du plateau.
Qu'est-ce qu'il a, ton cheval gris ?
Le cheval de gauche tourne la tête vers le vallon qui troue le bois. Le voilà qui secoue le garrot et qui allonge le cou et qui hennit vers le fond.
Ah, ça lui prend encore. Laissez-le s'amuser. Vous savez pas comment ça lui a pris. Ça a été une fois vers mai. De là, vous savez, on voit la butte d'Aubignane. Tenez là-bas, on montait comme ça. Il se met à chanter. Cette fois-là, je n'ai pas attaché d'importance. Le jour d'après encore, et toujours au même endroit. Et il tournait la tête toujours du même côté. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut bien y avoir par là ?
Je regarde. Là-bas, à Aubignane, où d'habitude c'était roux comme du maïs, c'était vert de verdure, d'une belle verdure profonde.
Elle avait vu ça, cette bête.
Ah, ça fait attention à des choses.
Oui.
Voilà le plateau. Voilà le trot des chevaux, et un peu d'air moins chaud.
« Tenez, vous voyez, fait Michel, là comme partout. »
Il montre du fouet un chaume entre les herbes et de petits gerbiers comme des taupinières. Malgré le mauvais an, le grand marché d'été a rempli la Vilotte. Il y a des hommes et des chars sur toutes les routes, des femmes avec des paquets, des enfants habillés de dimanche qui serrent dans leur poing droit les 6 sous pour le beignet frit. Ça vient de toutes les pentes des collines. Il y en a un gros tas qui marche sur la route d'Ongles, tous ensemble, les charrettes au pas et tout le monde dans la poussière. Il y en a comme des graines sur les sentiers du côté de la roche, des piétons avec le sac à l'épaule et la chèvre derrière. Il y en a qui font la pause sur les peupliers du chemin de Simiane, juste dessous les murs, dans le son de toutes les cloches de midi. Il y en a qui sont arrêtés au carrefour du moulin. Ceux de la roche ont rencontré ceux de Bêche. Ils sont emmêlés comme un paquet de branches au milieu d'un ruisseau. Ils se sont regardés les uns les autres d'un regard court qui va droit des yeux au sac de blé. Ils se sont compris tout de suite. Ah, qu'il est mauvais, ces temps qu'on est à vivre, et que le grain est léger, et que peu il y a. Oh oui! Les femmes songent que là-haut, sur la place, il y a des marchands de toiles, de robes et de rubans, et qu'il va falloir passer devant tout ça étalé, et qu'il va falloir résister. D'ici, on sent déjà la friture des gaufres, on entend comme un suintement des orgues, des manèges de chevaux de bois, ça fait des figures longues, ces invitations de fête, dans un bel air plein de soleil qui vous reproche le mauvais blé. Dans le pré qui pend à l'ombrage des pommiers, des gens de ferme se sont assis autour de leur déjeuner. D'ordinaire, on va à l'auberge, manger la daube. Aujourd'hui, faut aller à l'économie. Ça n'est pas que l'auberge chaume, oh non, à la longue table du milieu, il n'y a plus de place et déjà, on a mis les guéridons sur les côtés, entre les fenêtres, et les deux filles sont rouges à croire qu'elles ont des tomates mûres sous leurs cheveux, et elles courent de la cuisine à la salle sans s'arrêter, et la sauce brune coule le long de leurs bras. Ce n'est pas qu'on ait le temps de dire le chapelet à l'auberge, non, mais ceux qui sont là, c'est surtout le courtier du bas pays, le pansu qui vient ici pour racler le pauvre monde parce qu'il sait mieux se servir de sa langue et qu'il veut acheter avec moins de sous possible. Pas du beau monde. Sur la place, les colporteurs et les bazars ont monté des baraques de toile entre les tilleuls et s'est répandu à seau sous les tentes des chapeaux, des pantoufles, des souliers, des vestes, des gros pantalons de velours, des poupées pour les enfants, des colliers de corail pour les filles, des casseroles et des faitous pour les ménagères, et des jouets et des pompons pour les tout-petits, et des sucettes pour les goulus du tété dont la maman ne peut pas se débarrasser. Et c'est bien pratique. Il y a des marchands à l'aune avec leurs règles de bois un peu plus courtes que mesure.
Ah, je vous ferai bien bonne longueur, venez donc.
On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit, et que la lune docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent. Savait au village que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de ce Lazare sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile ont un soir changé d'avis. C'était pourtant pas facile de se cacher près d'ici. Ils ont joint leur solitude, ils ont partagé le vent, prenant la douce habitude de s'aimer secrètement. Au bout de quelques semaines, il parut aux indiscrets que dans sa jupe de laine, Cécile s'alourdissait. Alors il fallut les entendre tous crier au déshonneur. Mais Cécile, qui est tendre, a préféré le bonheur. On tandis que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit. Il y a bien des imbéciles pour en sourire aujourd'hui. Pourtant, jusqu'au bout des saules, ils se sont tenus la main, puis épaule contre épaule, ils ont suivi leur chemin. On aurait voulu peut-être voir Cécile dans l'étang, et sur la branche d'un hêtre trouver Lazare pendant. Sans gêne, on aurait pu suivre leur cortège en soupirant. Mais ceux que l'amour délivre préfèrent s'aimer vivant. On dit que Lazare et Cécile se sont mariés cette nuit, dans la lumière fragile des heures d'après-minuit. On dit qu'au creux de la mare, la lune en deux se brisa, formant deux anneaux bizarres qu'ils se glissèrent au doigt. Lorsqu'ils ont couru ensemble, le vent leur fit un manteau. Moi qui ne dormais pas, j'en tremble de les avoir vus si beaux. Toi Cécile, toi Lazare, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement, que jamais on sépare ceux qui s'aiment simplement.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Regain, Jean Giono. Il y a les bonbonneries et les marchands de sucreries et de fritures avec des gamins collés comme des mouches sur peau à miel. Il y a celui qui vend des tisanes d'herbe et des petits livres, où tout le mal du corps est expliqué et guéri. Et il y a, près de la bascule à moutons, un manège de chevaux de bois bariolés et grondeurs qui tournent dans les arbres comme un bourdon. Et ça fait, dans la chaleur, du bruit et des cris à vous rendre sourd, comme si on avait de l'eau dans les oreilles. Chez Agatange, on a laissé les portes du café ouvertes. Il en coule un ruisseau de fumée et de cris. Il y a là-dedans des gens qui ont dîné de saucissons et de vin blanc autour des tables de marbre et qui discutent maintenant en bousculant les verres vides du poing et de la voix. Agatange n'en peut plus. Il est sur pied depuis ce matin. Pas une minute pour s'asseoir. Toujours en route de la cuisine au café et il faut passer entre les tables, entre les chaises. Voilà celui-là du fond qui veut du vermouth maintenant. Va falloir descendre à la cave. Il est en bras de chemise, une belle chemise à fleurs rouges. Il a le beau pantalon et pas de faux col. Le faux col en celluloïde est tout préparé sur la table de la cuisine à côté des tasses propres. Il y a aussi les deux boutons de fer et un nœud de cravate tout fait, bien noir, bien neuf, acheté de frais pour tout à l'heure. Au fond de la cuisine, il y a la porte du couloir. Elle donne sur les escaliers des chambres. Elle est ouverte, elle est comme peinte d'une lumière de cierge qui tombe d'en haut. À des moments où il y a un peu de calme, Agatange va à la porte et appelle doucement « Norine, vous n'avez besoin de rien ?» Une petite voix descend. « Non ? Pas un peu de rhum, un peu de rhum, allez ! Non, va, fais ton travail !» Tout en servant, Agatange regarde la pendule. Il va bientôt être 3 heures. « 4 fines ? Bon. » Il va bientôt être 3 heures. Et voilà Norine qui est descendue dans la cuisine. « Tu as pensé à la caisse ? Oui, bien sûr. » Elle demande à Agatange, parce qu'on n'est pas encore venu. Il se ferait temps. Avec la chaleur qu'il fait, il vaudrait mieux qu'il soit dedans. Agatange a sous le bras la bouteille de fine et à la main la débelloire, et sur l'autre main le plateau avec des tasses. « Eh oui, tante !» Je vous l'ai déjà dit, j'y ai pensé, mais juste un jour de foire. Et puis ça n'est pas l'heure encore, pas tout à fait, c'est pas 3 heures. Il m'a dit qu'il viendrait le mettre dedans à 3 heures, c'est -5. Tenez, ça sonne. Il va venir, ne vous inquiétez pas. La petite vieille regarde les tasses propres sur la table et le faux col et la cravate noire, et l'agatange qui est rouge et luisant de sueur, et le tiroir du comptoir tout ouvert et qui déborde de billets de 5 francs. Non, ce n'est pas que je m'inquiète, mais il ne sent pas bon, tu sais.
C'est Jérémie qui a poussé le rideau de la porte et qui a crié « Monsieur Astruc, vous voulez du blé ?» L'autre en a été si bien bousculé de ça qu'il s'est tourné d'un bloc et que la table et les verres ont tremblé. « Et où tu en as vu, toi, du blé? Il n'y en a pas 10 grains de propre dans tout ton pays. » « Je ne sais pas s'il y en a 10 grains de propre, mais de sûr, j'en ai vu 6 sacs, et du beau. » Il est entré et il est venu sur ses longues jambes jusqu'à la table. Monsieur Astruc le regarde. Jérémie s'y connaît en regard. « Donnez-moi une cigarette. » Monsieur Astruc sort son paquet. « Je vous en prends 2. » « Et alors ?»« Alors, c'est là-bas, derrière les chevaux de bois, à un endroit que d'habitude on y met les mulets. » « Il a fallu moi. » Pour aller regarder là-bas, il y en a un qui est là avec ses sacs devant lui. Il ne dit rien à personne, il regarde. Il est là, il attend. Je lui ai dit « Et qu'est-ce que tu as là ?»« Du blé », il m'a dit. Et le plus curieux, c'est que c'est vrai. Vous savez, monsieur Astruc, je m'y connais, vous le savez, c'est pas la première fois. Eh bien, je suis sûr que du blé comme ça, vous n'en avez jamais vu. Donnez-moi un peu de feu. Qu'est-ce que tu bois ? Rien, j'ai assez bu. « Mais si vous faites l'affaire, vous me donnerez quelque chose. Je pouvais aussi bien aller voir le chac, mais j'ai pensé à vous d'abord. » Monsieur Astruc, c'est un beau ventre bien plié dans un gilet double avec une chaîne de montre qui attache tout. Et c'est sur 2 petites jambes, mais ça se lève d'un coup. « Il faut que j'aille voir Agathange, je reviens, fais servir des bocs. » C'est bien 6 sacs qu'il y en a. On les voit d'ici. Monsieur Astruc les a déjà comptés. Il a déjà vu qu'il y a du monde qui regarde le blé. Il a déjà vu qu'il n'y a pas encore les autres courtiers. Laissez passer, laissez passer. Son premier regard est pour le blé. Il en a tout de suite plein les yeux. Ça alors ! C'est lourd comme du plomb à fusil. C'est sain et doré. Et propre comme on ne fait plus propre. Pas une balle, rien que du grain, sec, solide, net comme de l'eau du ruisseau. Il veut le toucher pour le sentir couler entre ses doigts, c'est pas une chose qu'on voit tous les jours. « Touchez pas !» dit l'homme. Monsieur Astruc le regarde. « Touchez pas !» Si c'est pour acheter, ça va bien. Mais si c'est pour regarder, regardez avec les yeux. C'est pour acheter, mais il ne touche pas. Il comprend. Il serait comme ça, lui. Où t'as eu ça ? À Aubignane. Monsieur Astruc se penche encore sur la belle graine. On la voit qui gonfle la toile des sacs. On la voit sans paille et sans poussière. Il ne dit rien. Et personne ne dit rien, même pas celui qui est derrière les sacs et qui vend. Il n'y a rien à dire, c'est du beau blé et tout le monde le sait. C'est pas battu à la machine ? C'est battu avec ça, dit l'homme. Il montre ses grandes mains qui sont blessées par le fléau, et comme il les ouvre, ça fait craquer les croûtes et ça saigne. À côté de l'homme, il y a une petite femme, jeune et pas mal jolie, et toute cuite de soleil comme une brique. Et elle regarde l'homme de bas en haut, toute contente. Elle lui dit « Ferme ta main. » « Ça saigne. » Et il ferme sa main. « Alors ? Alors je le prends. C'est tout là ? » ?»« Oui, j'en ai encore 4 sacs, mais c'est pour moi. » »« Et qu'est-ce que tu veux en faire ? Du pain, pardi. Donne-les, je te les prends aussi. »« Non, je vous l'ai dit, je les garde. »« Je t'en donne 110 francs. C'est pas plus, » demande un homme qui est là. Celui de derrière les sacs a regardé la petite femme. Et il a fait un sourire avec ses yeux et ses lèvres, et puis il a tourné sa figure vers Monsieur Astruc sans le sourire, toute pareille à celle qu'il avait tout à l'heure quand il a dit « Touchez pas !» « Je sais pas si c'est plus ou si c'est moins, mais moi, j'en veux 130 !» Le regard de Monsieur Astruc s'est abaissé sur le blé. « Bon, je le prends. » Et il ne l'a pas dit, il l'a gueulé, parce que l'orgue des chevaux de bois avait commencé de grogner. « Mais les 10 sacs !» il a encore gueulé. « Non !» a crié l'homme. « C'est 6 et pas plus. Les autres, je les garde, je te l'ai dit. Ma femme aime le bon pain. »
Ça en fait toute une affaire, ce blé. Tout le monde en parle. D'abord, Monsieur Astruc en a mis deux grosses poignées dans sa poche et il les fait voir ici et là partout. « Regardez un peu !» il dit. Et il ouvre sa main grasse et elle est pleine de ce beau blé, beau et solide comme un homme. « Ça alors !» font les gens. « Et cette année surtout !» Et toutes les années, tu peux dire, ajoute Monsieur Astruc, toutes les années, c'est un blé de concours, ça. C'est la première fois que j'en vois. Et tout battu au fléau et vanné au mistral. C'est pas un manchot, celui qui a fait ça. Et il en a les mains en sang. On écoute et on siffle un long sifflement d'admiration. Oh, collègue ! Et le Jérémy, il va par toute la foire. Tu as vu le blé qu'il a acheté, Astruc ? Si on dit oui, il fait « C'est moi qui l'ai trouvé ! » Il allait partir sans rien, nu comme un ver. C'est moi qui l'ai trouvé. Si on dit non, il attrape l'homme par l'épaule et lui crie « Va le voir, que de ta vie tu en verras !» Ça en fait toute une affaire. À 4 heures de l'après-midi, on ne parle plus que de ça. C'est un Daubignan, il paraît. Ben, je crois que je le connais. Vous voyez ce que c'est que la terre. Ils sont tous partis un après l'autre, que ça ne payait pas, il paraît, et puis, vous voyez. Agathan, je le connais. Moi aussi. On y dit Penturle. Son nom, c'est Briden. On est un peu cousins de loin, du côté de la femme. On a beau dire ce blé du dehors pour nos terres, ça ne vaut pas le blé du pays, tu vois. Et Monsieur Astruc court comme un rat malgré son gros ventre et il a toujours la main dans la poche. Derrière les chevaux de bois, là-bas, sous les tilleuls, il y a toujours Penturle. Il est lourd et tout sous de cet orgue qui gronde comme 10 pourceaux. Et il est lourd aussi de tout cet argent qu'il a dans la main. Arsule est contre lui, appuyée contre lui et luisante de joie comme une flamme de cierge. C'est ça, le vin de Penturle. C'est de la sentir contre lui et contente. Là qu'il n'y a personne, il lui met son bras autour de la taille et il la serre un peu pour la sentir souple et qui se plie comme une gerbe et dans son autre main, il a les sous. « Tu es contente ?» il lui dit. « Ce serait difficile. Ça en fait de l'argent, ça. Combien tu dis que ça fait ?»« 780. Oh, j'en ai jamais vu autant. » Et puis ils se sont dressés et ils sont partis dans la foire. C'était entendu comme ça. Et tant qu'ils n'ont pas été dans le monde, Penturle a gardé Arsule serré contre lui avec l'arc de son bras. Mais comme ils ont débouché entre les baraques, il l'a pressé une dernière fois, puis il l'a lâché, et ils vont comme deux personnes raisonnables. Ils se sont arrêtés devant l'étalage de Lubin. « Celui-là, il vend bon, tu devrais t'acheter une paire de pantalons et une veste. » « Et toi ?»« Ah, moi ! Si tu t'achètes rien, moi non plus. Moi, je verrai. Moi aussi. » Et ils sont passés. Ça a failli les brouiller parce que ça a été comme ça devant les souliers et devant tout. À la fin, Penturle a pris les billets qui étaient dans son sein entre la chemise et la peau et il les a donnés à Arsule, tous. « Tiens, fais un peu ce que tu veux. » Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc, la suite de ce roman de Jean Giono Reguin que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.